12h. Le journal de midi, César Yao.
Bonjour à tous, tout de suite le sommaire de ce mardi midi. La magistrate hors hiérarchie Chantal Nanaba Camara a pris officiellement la tête du Conseil constitutionnel ivoirien en remplacement de Koné Mamadou. L'audience solennelle de sa prestation de serment s'est tenue hier au palais présidentiel. Également dans ces titres de ce mardi midi, la présidente de la Fondation Solidarité pour tous, Fatima Solange, épouse Mabri, vient d'honorer les femmes du Tampi en leur offrant d'importants kits de produits d'hygiène et vestimentaires, non sans inviter celles-ci à l'appel à cohésion sociale, le vivre ensemble, gage du développement. Dans l'actualité internationale, Ali Ouattara, coordonnateur des coalitions de l'Afrique francophone pour la CPI, fera le bilan des actions de cette cour dans la lutte contre le génocide, les crimes de guerre et crimes contre l'humanité, et ce à la faveur de la célébration hier lundi de la journée de la justice pénale internationale. Et puis, en fin d'édition, Jean-Claude Comé recevra dans le cadre de l'invité de la rédaction, professeur Bamba Abdoulaye, spécialiste des relations internationales, pour décortiquer les décisions prises lors du 63e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO le dimanche 9 juillet dernier en Guinée-Bissau. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous. En ouverture de ce mardi midi, le Parlement ivoirien se réunit en congrès aujourd'hui mardi sur saisine du président de la République Alassane Ouattara. Cette réunion du congrès qui a lieu ce jour à partir de 14h ici à Abidjan, pour ordre du jour la prise en considération du projet de loi de révision de la Constitution ivoirienne au numéro 2016-886 du 8 novembre 2016, tel que modifié par la loi constitutionnelle numéro 2019-348 du 19 mars 2020. Eh bien, le Parlement ivoirien est composé de la Chambre basse, Assemblée nationale, et de la Chambre haute, le Sénat, devrait adopter la révision de quelques dispositions de la Constitution liées essentiellement aux modalités de fonctionnement des pouvoirs législatifs et exécutifs en vue d'assurer un fonctionnement optimal des institutions de la République qui les incarnent. Autre chose dans ce journal, nommé le 9 mai dernier, la magistrate hors hiérarchie Chantal Nanaba Camara a pris officiellement la tête du Conseil constitutionnel ivoirien en remplacement de Koné Mamadou, qui était bien évidemment en poste depuis le 9 février 2015. L'audience solennelle de sa prestation de serment s'est tenue hier lundi au palais présidentiel en présence du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. On en parle avec Carlos Kouandé.
Nouvellement nommée à la tête du Conseil constitutionnel ivoirien pour les 6 prochaines années, Chantal Nanaba Camara a prêté serment en ces termes.
Je m'engage à fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions, à ne prendre aucune position publique dans les domaines juridiques, politique, économique ou sociale, à ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel.
En plus d'être un symbole, le président Alassane Ouattara a dit à Chantal Nanaba Camara que sa nomination est méritée au regard de son parcours.
Votre accession à cette haute fonction de l'État est plus que méritée au regard de votre parcours professionnel de près de 45 ans dans la magistrature, mais également parce que vous incarnez un serviteur engagé et dévoué de l'État.
Avant de lui adresser cette exhortation,
je compte sur votre abnégation, votre rigueur, votre impartialité dans l'accomplissement de votre exaltante mission au service des Ivoiriens, en ayant pour boussole notre loi fondamentale.
A noter que le président de la République va procéder ultérieurement à la nomination de 3 conseillers au Conseil constitutionnel en remplacement de ceux dont le mandat arrive à expiration le 26 juillet 2023.
Et la nomination de Chantal Nanaba Camara rend évidemment fière la gente féminine avec quelques réactions de Kandia Camara, Raymond Goudou Kofi et Françoise Remarque.
C'est un grand honneur pour la jeune féminine, c'est une fierté. Celle qui est choisie, non seulement est une femme, mais une femme de qualité. Qualité intrinsèque, qualité professionnelle, qualité morale. Et nous, femmes de Côte d'Ivoire, nous sommes heureuses et fières. Aujourd'hui.
C'est un honneur pour toutes les femmes de Côte d'Ivoire et plus particulièrement pour celles qui très tôt, n'est-ce pas, se sont données pour objectif d'accompagner cette promotion des femmes. Nous avons des femmes valeureuses, nous avons des femmes compétentes. Aujourd'hui, c'est une femme qui a l'expertise, n'est-ce pas, dans le domaine et nous savons qu'elle va avoir un beau parcours, en tout cas, on prie Dieu pour cela.
Écoutez, c'est bien sûr une énorme fierté d'avoir une femme dans cette institution qui est une institution importante, prioritaire pour notre pays. Et il ne s'agit pas simplement, bien sûr, de la fierté d'avoir une femme à la tête du Conseil constitutionnel, mais surtout d'une femme compétente qui va pouvoir dire le droit. La mission qui lui a été confiée par le président de la République est une mission de très haute importance, bien sûr pour le président de la République, mais surtout pour le pays. Et nous savons qu'elle remplira bien cette mission.
Voilà, Kandia Camara, Raymond Goudou Kofi et Françoise Remarque dans des propos recueillis par Carlos Kouandé. Autre chose dans ce journal, le médiateur délégué pour les régions du Port, de la Bagou et du Tchologo, Koulibaly Seydou Sielé, a adressé devant la presse le week-end dernier le bilan de ses activités à la tête de l'institution. Un bilan qui se juge d'ailleurs positif. Il a par ailleurs précisément saisi l'occasion de cette rencontre pour annoncer une série d'actions en perspective afin de garantir un environnement apaisé avant, pendant et après les prochaines élections. L'écoutons.
On a un bilan positif. Depuis que la délégation de Lokorogo a ouvert, beaucoup parmi les dossiers qui partaient au tribunal se retrouvent sur nos tables. Donc nous sommes dans un partenariat positif. On va faire mieux si l'institution est plus visible. On va communiquer davantage et sur ce point, on a des passages dans les radios de proximité qui sont prévus. Et à cet effet, le cahier de charge de l'institution va être déroulé en langue locale. Éventuellement, s'il y a de bons représentants des autres groupes ethniques présents à Korogo, on va les inviter à venir nous aider à dire à la population de Korogo ce que nous faisons. Dans quelques temps, nous lançons le programme des élections pacifiées et paisibles pour le compte de nos régions. L'objectif est de préserver la paix dans laquelle les élections se définissent. Et la préservation contient un grand volet de protection des acquis. Pour ne pas que ce soit les chapelles politiques qui détruisent ces acquis, la République nous autorise à les recevoir ici. On doit, dans la mesure des moyens dont nous disposons, faire des rencontres de proximité dans les différents quartiers et éventuellement dans les différents départements de notre zone. Et on doit parvenir à faire signer aux hommes politiques une charge d'engagement à la protection de la paix avant, pendant et après les élections.
Voilà le médiateur délégué pour les régions du Poro, de la Bagou et du Tchologo, Koulibaly Seydou Sielé, était au micro de Marcel Bonnier, notre correspondant sur place. Action sociale dans le Tonkpi, parlons-en. La présidente de la Fondation Solidarité pour tous, Fatima Soulange, épouse Mabri, a honoré les femmes du Tonkpi en leur offrant d'importants kits de produits d'hygiène et vestimentaires, non sans inviter celles-ci à la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble, qui est gage du développement. Témoin pour Radio de la Paix, Stéphane Adams, notre correspondant dans la région.
Entourée de plusieurs groupements de femmes des départements de Biankouma, Man et Sépilou, la présidente de la Fondation Solidarité pour tous a livré ce message. Fatima Soulange, épouse Mabri.
La Fondation Solidarité pour tous a pour objectif de promouvoir le bien-être et l'autonomisation de la femme. Et vous, les mamans, vous constatez qu'effectivement, il y a beaucoup d'actions que la Fondation a eues et a fait avec vous. Aussi, la Fondation met l'accent sur la cohésion sociale et la paix. Vous savez, nous, les femmes, c'est nous qui sommes la base d'une famille. Et ma soeur, Madame Vagondo Diomandé, et moi, nous avons pris la décision de jouer un rôle important dans la paix, la cohésion pour accompagner nos époux dans la région du Tonkin. Vous savez, les endroits où il y a la mésentente, l'esprit malin finit toujours par se profiler. Et quand ça empêche, ceux qui sont perdants, c'est la population. Mais quand les leaders se mettent ensemble, ça constitue une force énorme. Parce que c'est à partir de cela que le développement viendra. Chère maman des mains, je sais que quand vous êtes engagé, vous allez jusqu'au bout. Je voudrais compter sur vous pour cela.
Ces femmes ont également reçu des kits composés de pagne, des produits cosmétiques, des mains de l'initiatrice de cette journée du vivre ensemble. À la réception de ce don, Mireille Guéhi, porte-parole des femmes.
Je voudrais dire merci à la présidente de la Fondation Solidarité pour tous pour cette cérémonie exceptionnelle qu'elle organise aujourd'hui pour toutes les femmes du Tonkin.
Notons que cette activité s'inscrit dans la promotion de la paix et la cohésion sociale entre les fils et filles du Tonkin. Stéphane Adams, Man, Radio de la Paix.
Retour à Abidjan et nous parlons là d'exploitation minière en Afrique. Le 6e sommet annuel africain des mines édition 2023 s'est tenu récemment à Paris et c'est en France et a réuni pour l'occasion plusieurs acteurs de l'industrie minière africaine et mondiale. Représentant la Côte d'Ivoire à ce sommet, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Sangafoua Koulibaly, a partagé la vision de la Côte d'Ivoire. Eh bien, voyons avec Serge Parfait, Dioma, Esfer International en industrie pétrolière et énergie, les retombées pour la Côte d'Ivoire de ce sommet annuel.
Les retombées d'un tel sommet s'apprécient déjà en termes d'échange d'expériences, en termes de contact avec des partenaires financiers, des partenaires techniques. Et les retombées sont aussi en termes de connaissances mutuelles des uns des autres par rapport aux techniques que chacun fait chez lui et qui peuvent servir à d'autres personnes. Et donc il s'agit en fait de retombées géostratégiques pour donner le positionnement et la voie commune de l'Afrique par rapport à cette industrie minière mondiale. Mais l'Afrique veut faire entendre sa voix. Ça c'est le positionnement géostratégique. Il y a aussi les retombées financières, parce qu'il s'agit effectivement aussi de présenter les opportunités que chaque pays a, de sorte à attirer les différents investisseurs étrangers qui peuvent être des investisseurs africains, des investisseurs non africains. Et nous avons aussi des retombées techniques, c'est-à-dire apprendre les nouvelles techniques et les nouvelles technologies qui s'appliquent dans le secteur des mines au plan mondial, voir la faisabilité de pouvoir les appliquer en Afrique et augmenter nos performances dans ce secteur minier.
Voilà, c'était parfait. Serge Parfait Dioma, expert international en industrie pétrolière et énergie. Sécurité à présent dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent qui menace la Côte d'Ivoire. La Caritas des États-Unis vient d'octroyer la somme de 200 millions de francs CFA à Caritas Côte d'Ivoire en vue donc d'exécuter la deuxième phase du projet dénommé SPD SLIC Paix et Développement. Là-dessus, les explications de Ndoli Libro, Valérie, coordonnatrice du dit projet.
L'extrémisme violent prospère dans les zones d'extrême pauvreté, dans des zones où la population a l'impression qu'elle est oubliée même des gouvernants, et dans des zones aussi où il y a déjà des semences de conflits. Et nous, à travers ce volet cohésion sociale que nous développons dans notre projet, nous voulons permettre à ces jeunes-là de pouvoir faire un pas en avant dans le sens de la cohésion sociale entre les communautés. Et cette approche permet d'abord aux jeunes de connaître qu'il a des compétences et qu'il peut se mettre au service de sa communauté avec ce qu'il est, avec ce qu'il a. Non d'attendre que ce soit l'État qui vienne leur donner ce dont ils ont besoin. Nous voulons leur montrer qu'ils ont eux-mêmes la capacité, la compétence pour se prendre en charge.
Ce projet court sur combien d'années et c'est d'une enveloppe de combien?
Le projet sur les 3 ans. C'est autour de 200 millions de francs CFA qui sont répartis entre les formations, puisque nous visons surtout le changement de comportement, le changement de mentalité. C'est la Caritas des États-Unis qui nous a accompagnés dans la première phase et qui nous accompagne encore pour cette seconde phase.
Voilà, c'était Ndoli Brou Valérie, la coordonnatrice du projet SLIC Paix et Développement dans des propos recueillis par Bakary Touré Labas, notre correspondant dans la région du Kabadougou. Dans l'actualité internationale, hier lundi a été célébrée la journée de la justice pénale internationale qui marque effectivement l'anniversaire de l'adoption du statut de Rome le 17 juillet 1998 qui est le traité fondateur de la CPI, la Cour pénale internationale. Quel bilan peut-on faire des actions de cette Cour internationale dans la lutte contre le génocide, les crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes d'agression? Voici la réponse d'Ali Ouattara, le coordonnateur des coalitions de l'Afrique francophone pour la CPI.
Cette cour-là a été créée essentiellement pour la lutte contre l'impunité et donc par conséquent à trois avantages que nous avons notés. Il s'agit notamment des sanctions exemplaires pour les crimes graves, la dissuasion pour prévenir et éviter la répétition des crimes et enfin la garantie d'une paix sociale durable en intégrant une dimension de justice réparatrice dans les procès. On constate qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites par la Cour, notamment des enquêtes qui ont été menées, les examens préliminaires, il y a des mandats d'arrêt qui ont été émis, il y a des procès qui ont vu le jour. Mais en dépit de tout cela, aujourd'hui, le bilan, c'est que nous avons une perception controversée de la Cour.
Et pourquoi?
L'un des éléments, c'est la mauvaise connaissance de la Cour et de son fonctionnement. Donc c'est pour ça qu'il y a eu trop d'espoir en la Cour. Il y a aussi des erreurs qui ont été commises par la Cour, notamment la stratégie d'enquête dans certaines affaires qui doivent être revues par la Cour. Il y a également le fait que beaucoup de victimes sont laissées pour compte. Quand, par exemple, il y a un acquittement qui est fait, lorsqu'il y a aussi même des condamnations qui sont faites, souvent les victimes ne sont pas satisfaites des différentes réparations qui leur sont données. Et donc, nous remarquons que aussi bien la Cour a des forces, mais également elle a beaucoup de faiblesses. Donc, la Cour doit pouvoir tirer les leçons des erreurs qui ont été commises pour parfaire son fonctionnement dans le cadre de la lutte contre l'impunité.
Voilà, c'était Ali Ouattara, coordonnateur des coalitions de l'Afrique francophone pour la CPI. La Cour pénale internationale était avec Marthe Kakour. À présent, l'invité de la rédaction est aujourd'hui professeur Bamba Abdoulaye, enseignant en histoire des relations internationales à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, qui décortique les décisions prises lors du 63e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO le dimanche 9 juillet dernier en Guinée-Bissau. Il est interrogé par Jean-Claude Comé.
Professeur Bamba Abdoulaye, bonjour.
Bonjour, M. Comé.
Les pays membres de la CEDEAO étaient réunis en Guinée-Bissau dans le cadre de la 63e session de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment les cas du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso qui sont dirigés par des juntes. Aujourd'hui, est-ce que pour ces différents dossiers, la CEDEAO a su manœuvrer, de votre avis?
Je pense qu'elle a plutôt tiré les leçons du passé, parce que elle a allié la carotte et le bâton. Et aujourd'hui, je pense que c'est la politique de la carotte qui doit être privilégiée pour ne pas donner des arguments aux jeunes au pouvoir de ne pas organiser les élections aux dates indiquées et se maintenir une fois de plus au pouvoir. Donc pour moi, la CEDEAO, tout en tirant les leçons du passé, devait donc créer les conditions pour amener les jeunes au pouvoir à organiser les élections aux dates indiquées. Et cela va permettre de tester leur bonne foi. Mais si elle radicalise encore sa position, ce serait un argument de plus. Surtout au Mali, où vous savez que le populisme est la chose la plus répandue, pour une fois de plus encore repousser les élections démocratiques tant sollicitées et tant souhaitées par la CEDEAO.
Donc pour vous, ça s'explique un peu, ces levées de suspension pour aider donc ces différents régimes à aller dans le sens voulu par les organisations sous-régionales.
Oui, absolument. Si vous ne procédez pas de cette façon-là, vous leur donnez des arguments supplémentaires pour dire, vous voyez, on n'arrive pas à organiser les élections parce que la CEDEAO a pris des mesures sur le plan financier et économique, ça nous bloque. Il faut donc que tout le monde les accompagne. Des dates ont été indiquées. Le Mali, c'est en février 2024. Le Burkina, c'est en juillet. La Guinée, c'est en décembre. Donc 2024, c'est l'année des élections de ces trois pays. Il faut créer les conditions pour aider ces trois pays-là à aller aux élections.
Mais est-ce qu'à l'analyse des décisions qui avaient été prises en son temps, la CEDEAO a eu raison de durcir un peu le ton?
Je pense que c'est le durcissement du ton de la CEDEAO qui a permis d'obtenir des dates claires. Parce que quand vous prenez les intentions de ces dirigeants militaires au début, et ils utilisaient peut-être le mot transition, mais je pense qu'ils n'avaient pas envie de faire de transition. Donc, j'ai dit tantôt, la politique du bâton et de la carotte a produit des fruits, mais maintenant, il faut accompagner les jeunes à organiser les élections pour que la démocratie puisse revenir dans ces trois pays et que des pouvoirs civils puissent gouverner sereinement ce pays.
Justement, vous pointez du doigt le réel problème. Est-ce que ce point-là pourrait être respecté?
Alors, ma conviction personnelle, c'est que je ne suis pas convaincu que ces jeunes au pouvoir aient envie de quitter le pouvoir. C'est ma conviction personnelle, mais elle ne compte pas. C'est l'analyse que j'ai fait plutôt qui doit guider les uns et les autres. CEDEAO doit donc analyser cas par cas. Le Mali, c'est dans pratiquement 6 à 7 mois. C'est le cas le plus proche. Vous savez que les élections communales n'ont pas pu se tenir. Donc,
néanmoins, il y a eu un référendum.
Il y a eu un référendum et vous savez que le pouvoir a préféré le référendum aux élections c'est communales. Ça. Je vous ai parlé de populisme tout à l'heure. Donc, dans ce cas bien précis du Mali, c'est le cas le plus sensible qui va servir en fait de noyau et de cobaye. Si le cas malien réussit, ça va donc amener le Burkina et la Guinée à comprendre qu'ils ont intérêt à organiser les élections en 2024. Mais si le cas malien ne réussit pas et que la junte réussit à se maintenir encore au pouvoir, complètement émarrée, ça va donner des idées à ces deux autres pays. Vous voyez donc que la marge de la CEDEAO est très très faible. Et moi, j'opte en tout cas pour la diplomatie, pour l'accompagnement, en faisant donc une fois et d'une fois de plus confiance aux dirigeants maliens, burkinabés et guinéens.
Vous parliez du Mali notamment. La question donc du départ annoncé des forces donc de l'ONU dans ce pays a été un sujet aussi analysé avec tout ce que cela va créer comme incidence. Ce départ-là déstabilise en quelque sorte la stratégie de lutte contre le terrorisme. Comment la CEDEAO pourrait parer à toute éventualité avec le départ des forces onusiennes?
La question sécurité est la question aujourd'hui qui est partagée par la plupart des pays membres de la CEDEAO, même si, il faut le reconnaître, la MINUSMA n'avait pas pour rôle de lutter contre le terrorisme véritablement. Mais ce départ-là va créer un déclic au niveau des djihadistes, va donner l'impression que la voie est libérée, surtout qu'on sait que l'armée malienne n'a pas tous les moyens nécessaires pour couvrir plus d'un million de kilomètres de territoire. Donc je dirais que ça va, d'un côté, faire naître des sentiments de crainte. De l'autre côté, ça peut galvaniser les djihadistes à vouloir annexer notre territoire. Mais en même temps aussi, au niveau du Mali, c'est une forme de responsabilisation. J'espère que l'armée malienne sera à la hauteur. Mais en tout état de cause, c'est un nouveau défi pour la CEDEAO. Il va falloir donc trouver des solutions à la nouvelle donne, parce que cette donne est sécuritaire et cette question sécuritaire touche pratiquement tous les pays membres de la CEDEAO.
Justement, vous l'avez dit, il faut trouver des solutions. L'une des solutions envisagées, selon les conclusions de cette rencontre, c'est la création d'une force d'intervention contre le terrorisme et contre les coups d'État. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je dirais une force de plus. On a cette habitude en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, de créer des forces, de les juxtaposer. Et au finish, à l'heure du bilan, les résultats sont maigres. Et donc, l'initiative est bonne, mais la volonté politique et les moyens financiers, matériels, logistiques, est-ce que cela va suivre? C'est la grosse inquiétude.
Professeur Bamba Aboulaye, je vous remercie.
Merci à vous et à très bientôt.
Voilà, c'était professeur Bamba Aboulaye, enseignant en histoire des relations internationales à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il répondait aux questions de Jean-Claude Comé dans le cadre de l'invité de la rédaction. Voilà qui referme les pages de ce journal. Le rappel des titres. Le Parlement ivoirien se réunit aujourd'hui en congrès sur saisine du président de la République Alassane Ouattara, composé de la Chambre basse, Assemblée nationale, de la Chambre haute, Sénat. Ce congrès devrait adopter la révision de quelques dispositions de la Constitution liées essentiellement aux modalités de fonctionnement des pouvoirs législatifs et exécutifs. La présidente de la Fondation Solidarité pour tous, Fatima Soulanger-Pose-Mabri, vient d'honorer les femmes du temps qui en leur offrant d'importants kits de produits d'hygiène et vestimentaires. Non sans inviter celle-ci à la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble qui est gage de développement. Voilà, fin de cette édition de l'actualité sur Radio de la Paix. Prochain rendez-vous, 15h. Tout de suite, la revue de presse avec Aoussi Potin.
Bonjour. Je m'engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité dans le respect de la Constitution,